franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, l'exceptionnelle trouvaille du couvent des Jacobins à Rennes.
Visiter le couvent des Jacobins aujourd'hui, c'est remonter le temps. Lieu fondateur de la ville de Rennes, toutes les époques s'y retrouvent. Des traces d'occupation gallo-romaine, médiévale et contemporaine ont été mises à jour. Poteries, statuettes sculptées et ossements ont été déterrés en grande quantité. Un trésor de 1900 objets ainsi que 550 sépultures médiévales ont pu être étudiés.
Et parmi ces innombrables sépultures, les archéologues ont donc trouvé 5 petites urnes avec à l'intérieur 5 cœurs humains parfaitement conservés, qu'ils ont bien sûr étudiés. Rosane Colter, vous êtes en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue à l'INRAP et vous êtes à l'origine de ces fouilles. Et puis avec nous également Fabrice Dédouit, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes médecin légiste et radiologue au CHU de Rangueil à Toulouse. Rosane Colter, dans quel contexte est-ce que vous avez découvert ces cœurs dans le centre-ville de Rennes? Racontez-nous.
Eh bien, en fait, c'était déjà une fouille archéologique qui a eu lieu entre novembre 2011 et juin 2013. Donc, c'est déjà assez un peu vieux. Mmh. Et on a fouillé donc tout le couvent des Jacobins. Donc, c'est une parcelle de 8000 m² qui est vraiment très grande et à l'intérieur du couvent qui est toujours en élévation. On avait donc des sépultures, presque un millier de sépultures, on l'a prélevé une bonne partie. Et puis dans le cœur de l'église, on a retrouvé des urnes en plomb à côté de cercueils en plomb très bien conservés. Donc on avait 4 urnes en plomb comme ça dans le cœur de l'église. Et on a trouvé un peu plus tard un dernier cercueil en plomb dans une chapelle attenante qui a fait pas mal de bruit en juin dernier, celui de Louise de Cango. Et sur ce cercueil était posée également une urne en plomb en forme de cœur qui appartenait à son mari.
Et Fabrice Dédouit, c'est donc vers vous que les archéologues se sont tournés pour ouvrir ces urnes. Vous étiez certain d'y trouver des vrais cœurs à l'intérieur?
En fait, au début, non, on n'avait aucune certitude. On espérait très fortement qu'on allait pouvoir découvrir ce que, en fait, de façon objective, on a trouvé, à savoir des cœurs qui étaient parfaitement conservés, en fait, dans ces urnes en plomb, qui également étaient en forme de cœur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sur la plupart des urnes, il y avait le nom, en fait, des propriétaires des cœurs. Donc, c'est aussi un élément qui est très intéressant, mais donc on supposait que les cœurs étaient à l'intérieur des urnes cordiformes, mais on n'avait aucune certitude par rapport à l'état de conservation de ce qu'on allait trouver en fait à l'intérieur de ces urnes.
Alors justement, Rosane Colter, vous avez pu identifier toutes les personnalités à qui appartenaient ces différents cœurs?
Alors sur les 5 urnes, on a 4 noms en fait qui sont gravés ou frappés en fait. Donc on avait donc le Toussaint de Périen, le chevalier de Bréféliac, donc le mari de Louise de Cango qui est décédé au milieu du XVIIe siècle. Et au fin du XVIe, on avait déjà une dame qui doit être Catherine de Tournemine qui est décédée en 1584. Mmh. Et puis on a deux autres mentions sur le fils de seigneur de la Boissière en 1626 et un autre qui doit correspondre à un chevalier de la Porte, un comte d'Artois, qui devait être un président du Parlement de Bretagne et qui est décédé, pareil, au milieu du XVIIe siècle. Mmh. Donc, après, ce qui était intéressant, c'est qu'on peut essayer de faire des recoupements entre l'origine de ces personnes, leur rang, et puis les restes que nous retrouvons.
Fabrice Dédouit, quand vous dites qu'ils sont très bien conservés, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'analyse? Qu'est-ce qu'on peut faire sur ces cœurs?
Alors, en fait, les choses se sont faites de façon progressive, c'est-à-dire que après l'ouverture des urnes en plomb, on est tombé pour certains des cœurs sur des petits sacs en fait en tissu qu'on a ouvert et qui contenaient en fait tout un matériel d'embaumement végétal hein, à base de fibres et de graines. Donc on a également donc ça faisait en fait une espèce de croûte tout autour des cœurs. Sachant qu'il y avait également du matériel de bourrage à l'intérieur des différentes cavités des cœurs.
Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas du tout décomposés, hein, ni secs
voilà.
D'ailleurs.
Donc c'est-à-dire que le processus de décomposition a été ralenti et stoppé. Mmh. Et ce qui fait que on avait vraiment de la matière. Les cœurs étaient alors sauf pour un sur les cinq qui étaient vraiment multifragmentaires, mais sinon les autres étaient parfaitement conservés. Alors l'inconvénient c'est que ils étaient tout secs, hein, puisque c'est le but en fait par rapport au matériel d'embaumement. Mm-hmm. Donc en fait on les a réhydratés pour leur redonner un peu de consistance et d'élasticité. On les a nettoyés donc extérieurs et intérieurs. Avant de les nettoyer, on les a passés au scanner parce qu'on était curieux quand même de voir quelles informations en fait, on pouvait obtenir à partir du scanner, savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, est-ce qu'il y avait du matériel ou pas, mmh. est-ce qu'on pouvait reconnaître des éléments anatomiques ou pas. Donc c'était le cas. Et donc après nettoyage complet, on a refait à nouveau des acquisitions, à la fois de scanners et puis d'IRM avec des injections de produits de contraste en fait dans les coronaires.
Et
donc, on a une information à la fois des cœurs à proprement parler et également des coronaires.
Et Rosenkolter, si ces cœurs font l'actualité, c'est qu'ils ont été présentés à Chicago avant-hier et vous avez même pu trouver quelles étaient les pathologies dont souffraient ces personnes.
Mais en fait, c'était le docteur Deduit et avec le docteur Mokrane. Eux, après, ils ont travaillé aussi sur les radiologies et puis de façon macroscopique pour essayer de déterminer toutes ces pathologies. Donc je pense que Fabrice est encore plus à même que moi pour en discuter. Et donc ça a fait l'objet d'une conférence au congrès de radiologie mercredi dernier et on a présenté aussi en session inaugurale en fait ce projet quoi.
Alors Fabrice Deluit, très vite parce que le rendez-vous touche à sa fin, quelle pathologie est-ce que vous avez remarqué sur ces cœurs?
En fait, sur les quatre cœurs qui étaient exploitables, on a mis en évidence des pathologies cardiaques, donc on appelle ça des cardiomyopathies. Mmh. Il y avait une cardiomyopathie hypertrophique, donc un gros cœur avec des parois épaissies, et il y avait deux cœurs qui présentaient des cardiomyopathies dilatées, donc c'est l'inverse en fait, c'est des grosses cavités avec des parois très fines, et un cœur qu'on a interprété comme étant normal, à la fois par l'imagerie et par la dissection, puisqu'après on les a disséqués, on a fait des prélèvements qui ont été analysés par l'anatomopathologiste, donc avec une étude microscopique.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, effectivement, vous le disiez Axel, hein, ces cœurs qui ont été présentés à Chicago donc pour le congrès de cardiologie aux États-Unis. Merci Fabrice Deduit et Rosenkolter, passez un bon week-end également à vous Axel Villard.
Merci Mathieu,
à très bientôt.
À lundi.
Dans les coulisses de la COP21, avec reporter.net.
Allez, comme tous les jours pendant la COP21, nous partons dans les coulisses avec vous Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Alors, les choses se précisent autour d'un premier texte avant l'arrivée demain des ministres?
Alors, elles se précisent sans se préciser. Le président de la COP, Laurent Fabius, vient de finir une conférence de presse qui était un magnifique exercice de langue de bois, c'est-à-dire pour ne quasiment rien dire, sinon une phrase importante, le compte n'y est pas. Ceci dit, le président se montre optimiste puisqu'il y a maintenant un nouveau texte sur la table qui est un petit peu plus court que celui d'hier, mm-hmm. qui ne compte plus que 750 crochets au lieu de 1400 le texte précédent, donc on avance. Il y a des compromis qui se dessinent assez clairement sur un certain nombre de questions. En revanche, on a toujours un énorme débat autour du financement. Et ça sera le cœur sans doute de la négociation politique qui démarrera à partir de lundi avec l'arrivée des ministres.
Est-ce que du côté de la société civile, de nouvelles mobilisations s'organisent là ou pas?
Oui, tout à fait, avec un rendez-vous très important qui aura lieu à Montreuil, à côté de Paris, mmh. samedi et dimanche. C'est le Village Mondial des Alternatives, qui sera un petit peu dans la logique d'Alternativa que les auditeurs de La Tête au Carré connaissent assez bien, c'est-à-dire plein d'alternatives dans tous les sens pour montrer que la lutte contre le changement climatique peut se faire au quotidien et déjà mise en œuvre. Et puis aussi, une nouvelle importante, c'est que les grandes ONG, la Coalition Climat, a rencontré la préfecture de police et le ministre de l'Intérieur hier. À vrai dire, il y a encore un rendez-vous en ce moment même à la préfecture de police. Mmh. En gros, le ministre de l'Intérieur dit oui, il sera possible d'organiser une expression des citoyens le 12 décembre, samedi prochain, samedi en 8, pour la fin de la COP. Après, il reste à en décider des modalités, c'est ce qui se discute cet après-midi, en ce moment même.
Merci Hervé Kempf, dans les coulisses de la COP21, avec toutes les infos évidemment sur la conférence sur votre site reporter.net. À bientôt, à lundi. Merci beaucoup.
À lundi.